Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce la découverte de nouveaux variants dont l'un serait très inquiétant, alors il a eu plusieurs noms qui lui ont été donnés, C1, B1, peu importe le nom, le fait est c'est qu'il y a véritablement des variants qui sont découverts et qui laissent à penser que la pandémie de coronavirus est loin d'être terminée, même si aujourd'hui, grâce aux vaccins et grâce aux gestes barrières, à toutes les mesures sanitaires qui s'imposent, on arrive à très bien vivre avec le Covid-19 à proximité de soi, mais sans en prendre le risque d'être contaminé, pour peu que l'on respecte scrupuleusement les gestes barrières. En Algérie, en tout cas, il y a toujours beaucoup de difficultés pour lutter contre le Covid-19, avec ce qui s'est déroulé dans la ville de Heizer. C'est là où il y a eu des manifestations. C'est un tout petit chef-lieu où les gens se sont plaints puisqu'il y avait anciennement une clinique, une polyclinique. Et bien, il s'avère que cette clinique, ce centre de santé a été transformé. Ce sont des logements de fonction qui ont été construits. Aujourd'hui, les habitants ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils demandent la réfection des lieux, le retour d'entités sanitaires et médicales de telle façon à ce que des soins puissent être prodigués, estimant que le lieu n'était pas le mieux choisi pour y construire des logements de fonction, bien que tout ceci ait été fait avant la période du Covid-19. La vie politique en Tunisie, avec Rached Ranouchi qui reprend les rênes de Ennahda. Même il en a toujours été le président, mais en tout cas, il reprend complètement la main sur l'organisation politique. On se souvient de ce conseil qui avait eu lieu à Tunis, qui avait été extrêmement mouvementé. Donc, il reprend en main le mouvement et il prend des décisions comme par exemple geler l'adhésion de son ancien porte-parole qui par ailleurs a été ministre, Imed Amami. Aussi, recomposition politique avec une redéfinition stratégique chez Khaled Tounes, puisqu'il y a eu sur la page officielle du parti politique tunisien une lettre qui a été signée non pas nominalement mais par un groupe de députés réclamant au président qu'il fixe une date limite à la période des mesures exceptionnelles qui sont actuellement en cours. Il demande également à ce qu'il y ait une levée des mesures qu'il qualifie ses députés d'abusives concernant les interdictions de voyage, les assignations à résidence et les autres procès de civils devant des tribunaux militaires. En tout cas, voilà donc les deux formations politiques tunisiennes qui aujourd'hui se réajustent par rapport à la donne qui est celle actuellement en cours à Tunis. Satisfaction, semble-t-il, à Nouakchott, après la signature avec l'Union européenne du nouveau accord sur la pêche. Celui-ci donc a été signé. Il vise à renforcer le partenariat entre les deux pays, enfin en tout cas entre l'Union européenne et la Mauritanie. C'est un accord qui vise à renouveler le précédent qui avait été signé en 2008. Donc en fait, il s'agit d'autoriser la flotte européenne à opérer dans les eaux mauritaniennes sur des crustacés, également du thon, des petits pélagiques, tout ça pour un total de 290 000 tonnes par an. De son côté, l'Europe, qui va forcément payer la capture de poissons, consacrera 57,5 millions d'euros à ce partenariat. Et puis il y aura également 16,5 millions d'euros additionnels qui feront partie, va-t-on dire, de cet échange en bonne intelligence entre l'Union européenne et la Mauritanie, dont les eaux sont riches et poissonneuses. Cette information qui n'a pas encore été confirmée de sources officielles en Libye, donc prudence, mais il se pourrait bien que Saif al-Islam, donc le fils Kadhafi, ait bel et bien décidé de se présenter à l'élection présidentielle. C'est Africa Gate, un site d'information, qui l'annonce. Il s'agirait de coordonner l'annonce de cette candidature avec l'anniversaire de la révolution qui avait été initiée par Kadhafi et qui lui avait permis d'accéder au pouvoir. C'était en septembre 1969. Prudence tout de même, attendons qu'il y ait cette déclaration, en tout cas attendue, du fils Kadhafi, qui confirmerait qu'il décide bien de briguer le poste suprême à l'occasion des élections qui pourraient se tenir le 24 décembre de cette année en Libye. Après une accalmie très relative durant l'été, de nouveau des combats sur la ville de Marib au Yémen avec un bilan extrêmement lourd. 65 rebelles houthis et membres des forces pro-gouvernementales ont été tués dans cette ville qui se trouve aujourd'hui sous le feu des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Cette recrudescence de combats survient après des frappes qui ont eu lieu sur l'une des plus grandes bases aériennes du Yémen au sud du pays et qui dimanche dernier, attaque qui avait été fatale à une trentaine de combattants pro-gouvernementaux. Il n'y a toujours pas de solution négociée qui laisserait espérer une baisse de la tension militaire sur la ville de Marib et ses environs. Elle est en chemin, cette cargaison de pétrole iranien à destination du sud Liban. Une livraison qui a été réclamée par le Hezbollah, ceci en totale infraction avec les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran qui interdit qu'il y ait tout contact et toute perception de pétrole dans un contexte de tension, bien évidemment, entre l'Iran et les États-Unis. Malgré cela, le Hezbollah a fait ce geste de défiance, de demander à l'Iran que un, deux ou trois pétroliers viennent apporter du pétrole et aider le Liban face à la pénurie qu'il connaît actuellement de carburant. Alors pour éviter de mettre trop à mal les autorités de Beyrouth, il a été décidé de façon tout à fait informelle que les pétroliers, en tout cas un premier pétrolier, entrerait dans les eaux nationales syriennes, que là serait déchargée la cargaison dans un ou plusieurs ports syriens. Et ensuite, ce sont des camions citernes qui livreront le Liban avec la précieuse marchandise, donc du pétrole iranien. Comment vont réagir les autorités de Beyrouth? Comment va réagir l'Amérique alors qu'il s'agit clairement d'une infraction aux sanctions qui ont été décidées à Washington? Nous en saurons plus dans les prochains jours. Notre escale du jour nous mène en Afghanistan avec ces informations qui nous donnent des précisions sur ce que pourrait être la formation gouvernementale des talibans. Tout porte à croire que c'est un conseil de gouvernement d'abord qui sera à la manœuvre. Ce ne sera pas un gouvernement tout simplement comme nous on peut le connaître. Donc ce conseil de gouvernement s'appuie sur les structures tribales et ancestrales qu'il y a en Afghanistan. La responsabilité, le commandement suprême reviendrait au chef actuel des talibans, Etabullah Akhundzada, et il reviendrait à l'un de ses principaux collaborateurs, Abdul Ghani Baradar, d'avoir la charge de la gestion quotidienne du gouvernement. Abdul Ghani Baradar, c'est l'homme qui était à Doha. C'est lui qui a mené toutes les négociations avec les Américains. C'est lui qui parle anglais, qui connaît parfaitement bien le jeu de la diplomatie. Il a aussi ses entrées au Pakistan. C'est un homme qui représente un visage, va-t-on dire, plus ouvert des talibans et néanmoins légitime puisqu'il a été l'un des cofondateurs de ce mouvement. Donc voilà, il a un peu le profil idéal pour être la cheville ouvrière de cette formation politique qui, a priori, ne devrait pas compter que des talibans, devraient être également présents d'anciens ministres, des gens qui ont déjà travaillé donc sous la période Karzai, par exemple, donc des gens qui ont une expérience de la vie en cabinet. Et puis aussi, mais ça, tout cela, bien évidemment, demandera à être vérifié, il pourrait y avoir des personnalités importantes de la vie civile qui pourraient également participer à cette formation. On apprend par ailleurs que est en préparation au palais de Kaboul la cérémonie au cours de laquelle l'annonce sera faite de ce conseil de gouvernement. Et puis sinon, de façon tout à fait pratique, signalons qu'il y a toujours des questions qui se posent sur l'aéroport international de Kaboul. Actuellement, des diplomates à la fois de la Turquie, du Qatar et aussi du Royaume-Uni réfléchissent à la réouverture le plus rapidement possible de l'aéroport, sachant que l'aéroport n'est pas officiellement fermé. Il n'y a pas de décision qui a été prise de la part des talibans de le fermer. Simplement, il est extrêmement difficile d'y travailler. Tout cela doit être organisé. C'est pourquoi voient tous ces pays s'affaire à faire en sorte qu'ils puissent d'abord proposer leur soutien technique aux talibans et puis aussi participer aux opérations de transit, sachant qu'il reste toujours actuellement des personnes à Kaboul qui veulent encore partir. Les sources américaines disent qu'il y a environ 200 personnes qui sont toujours candidates au départ, donc qui devraient partir ensuite, bien évidemment si les talibans ne les ennuient pas. Et sinon, pour finir avec ce dossier afghan, signalons aussi beaucoup de réfugiés afghans qui actuellement sont en train de traverser à pied la frontière vers l'Iran dans l'espoir de trouver une place dans un camp de réfugiés. Beaucoup de départs aux frontières de l'Afghanistan pour essayer de fuir le régime taliban qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.